Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na malaika.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Galère, galère, Radio Galère, émission Livres et Amis du 22 juin 2022. Avec aujourd'hui Françoise et Dominique pour un petit livre qui a 20 ans. Un petit livre tiré de la bibliothèque d'Odile. Et Odile, nous l'embrassons bien sûr, elle va assez bien. Et d'ailleurs, elle vous salue tous, auditrices et auditeurs. Nous parlons beaucoup de l'émission quand nous lui rendons visite. Alors, aujourd'hui, Howard Zinn, vous le connaissez sûrement. Vous avez entendu parler de son livre phare, ou vous l'avez même lu ou parcouru, c'est Une histoire populaire des États-Unis, qui est paru en 1980 en anglais, qui a été sans arrêt réédité depuis. La traduction française est parue également aux éditions Agone de Marseille. Cette traduction est parue en 2002 et elle a également été rééditée. Enfin, disons qu'il y a des traductions qui ont repris les rééditions successives du livre en anglais. Le projet d'historien, en fait, de Howard Zinn, ce projet qui l'a occupé toute sa vie, c'était de mettre en avant le pouvoir des oubliés de l'histoire. C'est un peu comme Taab ou Hafs qui nous parlait il y a 2 semaines de ceux qui ne sont rien. Eh bien, Howard Zinn, il veut mettre en lumière ceux dont on ne parle pas habituellement dans l'histoire. Alors, par exemple, dans l'histoire américaine, c'était les Indiens, les esclaves en fuite, les soldats déserteurs, les ouvrières et les ouvriers en révolte contre le système. Et le livre dont nous allons parler maintenant, c'est un peu, on pourrait presque dire, une petite bluette dans les écrits de Howard Zinn. Ça s'appelle donc, enfin, ce livre s'appelle Karl Marx, Le Retour. C'est une pièce, Howard Zinn dit, une pièce historique en un acte. Elle est parue aux États-Unis en 1999. Et la traduction due à Thierry Dissepolo est parue aux éditions Agone de Marseille en 2002. Donc Karl Marx, Le Retour, ou plutôt comme le dit le sous-titre « Pièce historique sur le Karl Marx en un acte », eh bien on va écouter ce que Howard Zinn en dit lui-même pour la présenter.
J'ai écrit cette pièce à une période où l'effondrement de l'Union soviétique provoquait dans les grands médias et chez les leaders politiques une jubilation quasi universelle. Non seulement l'ennemi était mort, mais les idées du marxisme étaient discréditées. Le capitalisme et l'économie de marché avaient triomphé. Le marxisme avait perdu. Marx était vraiment mort. Je jugeais donc important de montrer clairement que ni l'URSS, ni les autres pays qui, se disant marxiste, avait installé des états policiers, n'incarnait la conception du socialisme de Marx. Je voulais montrer un Marx furieux, que ses conceptions aient été déformées jusqu'à être identifiées aux cruautés staliniennes. Je pensais qu'il fallait sauver Marx, non seulement de ces pseudo-communistes qui avaient instauré un ordre répressif dans différents coins du monde, mais aussi de ces essayistes et de ces politiciens de l'Ouest qui s'extasiaient alors devant le triomphe du capitalisme.
Donc, le point de vue est clair, montrer que Marx n'est pas mort. Et ce point de vue, donc, Marx n'est pas mort, le marxisme est toujours vivant et le marxisme surtout est toujours solide et est toujours un outil d'analyse de la société capitaliste dans laquelle nous vivons. Donc ce point de vue, Howard Zinn le confirme dans un long avant-propos qui précède donc la pièce elle-même et qui, en bien des points, est assez autobiographique.
J'ai lu le manifeste communiste à 17 ans. Je jurerais qu'il m'avait été passé par de jeunes communistes de mon quartier ouvrier. Cette lecture eut sur moi un impact décisif, car tout ce que je vivais alors, ce que vivaient mes parents et la situation aux États-Unis en 1939, tout cela s'expliquait, replacé dans un contexte historique et sous l'éclairage d'une puissante analyse. Je voyais mon père, un immigré juif autrichien, ayant tout juste le certificat d'études, travaillait vraiment très dur pour subvenir à peine aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants. Je voyais ma mère peiner jour et nuit pour être certaine de nous nourrir, de nous habiller et de pouvoir nous faire soigner si nous tombions malades. Leur existence était une lutte perpétuelle pour la survie. Je savais également qu'il existait des gens dans ce pays qui possédaient d'incroyables fortunes et qui ne travaillaient certainement pas aussi dur que mes parents. Le système n'était pas juste. En ces temps de crise, des familles vivaient tout autour de moi dans le dénuement complet et ce n'était certainement pas de leur faute. Incapables de payer leur loyer, elles voyaient leurs biens jetés à la rue par un propriétaire qui avait la loi pour lui. Et je savais par les journaux que c'était comme ça dans tout le pays.
Une première lecture de Marx, donc, de la part de Howard Zinn, qui correspond directement à la réalité qui entoure le jeune homme à l'époque, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'appuie aussi sur d'autres lectures de son adolescence. Il a lu Dickens, bien sûr, et puis à la fin des années 30, sa lecture de Marx est contemporaine de celle d'autres auteurs américains, par exemple celle de John Steinbeck, qui publie dans ces années-là « Les raisins de la colère ». Howard Zinn, donc, lit « Les raisins de la colère » et comprend bien que dans cet ouvrage, Steinbeck dénonce et montre son indignation contre les riches et contre les puissants du pays. C'est cette adéquation, en fait, du manifeste communiste avec la situation politique, économique et sociale des États-Unis de l'époque, donc des années 30, qui frappe Howard Zinn. Et il nous dit à nouveau un certain nombre de choses sur précisément la situation des États-Unis. Cette idée que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, c'est ce que montrent les premières pages du manifeste communiste. Le riche et le pauvre ne se faisaient pas face en tant qu'individus, mais en tant que classe, ce qui donnait à leur confrontation quelque chose d'épique et suggérait que les travailleurs, les pauvres, avaient quelque chose qui pouvait les unir dans leur quête de justice. C'est leur appartenance commune à la classe des travailleurs. Dans le manifeste, Marx et Engels ont écrit « Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les intérêts communs à toute la bourgeoisie. » Et ils avancent une idée saisissante « La machine gouvernementale n'est pas neutre et en dépit de ce qu'elle prétend, elle est au service de la classe capitaliste. » Ce récit personnel continue donc, un peu comme on l'avait vu dans Taab ou Hafs, et la prise de conscience de Howard Zinn continue aussi.
Mes amis communistes m'avaient emmené à une manifestation à Times Square. Des centaines de personnes défilaient dans les rues derrière des banderoles proclamant leur opposition à la guerre et au fascisme. J'ai entendu des sirènes. La police montait à charger la foule. Un policier en civil m'a mis KO. Quand je suis revenue à moi, alors que je retrouvais mes esprits, je n'avais plus qu'une seule idée en tête. La police et l'État sont aux ordres des plus riches et la liberté de parole et de se réunir diffère selon la classe sociale à laquelle on appartient.
Différence de classe, donc, et différence de position des classes par rapport au système. À partir de cette prise de conscience, la pensée de notre auteur se structure et il continue à nous l'expliquer. Quand à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler sur un chantier naval de Brooklyn comme apprenti ajusteur, notre tâche consistait à riveter ou à souder les plaques d'acier des coques des cuirassés, j'avais déjà une conscience de classe. Sur les quais, j'ai rencontré d'autres jeunes ouvriers comme moi et l'on a entrepris, par exemple par groupe de quatre, de mobiliser nos autres camarades apprentis. On a décidé de se rencontrer chaque semaine pour lire les écrits de Marx et Engels. Derrière la complexité des transactions économiques, autour de nous, se logeaient des vérités fondamentales. Le travail est la source de toute valeur. Le travail produit une valeur bien supérieure à sa maigre rémunération. Et le surplus tombe dans la poche de la classe possédante. Les capitalistes ont besoin du chômage, une armée de réserve, pour maintenir des salaires bas. Ainsi, la théorie marxiste expliquait que l'exploitation et la lutte des classes n'étaient pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais que le capitalisme les avait portés à leur paroxysme et étendus à l'échelle du monde. Il a rendu possible un immense progrès technologique et scientifique, il a créé d'immenses richesses, mais tout cela s'est concentré entre des mains de moins en moins nombreuses. Voilà, ça a été mon apprentissage précoce de Marx. Et des années plus tard, après avoir servi dans un bombardier de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu aller au collège grâce au GI Bill, vous savez, cette organisation américaine qui faisait que les anciens combattants pouvaient aller à l'université. Donc grâce à cet acte et grâce au soutien de ma femme, j'ai commencé à enseigner l'histoire et la politique. Et au bout de 7 ans, j'ai pu avoir un poste à l'université de Boston. Et là, j'ai commencé mes cours de théorie économique en accordant, bien sûr, une place toute particulière aux écrits de Marx et Engels. Howard Zinn devient donc enseignant en enseignant précisément la pensée de Marx et Engels, mais il ne s'intéresse pas qu'aux écrits marxistes. Il lit aussi beaucoup les écrits des penseurs anarchistes ou des activistes dissidents de l'Union soviétique. Et d'une façon différente, il s'intéresse aussi à la vie quotidienne de tous ces auteurs. Il essaye de se rapprocher, par exemple, de ce qui constitue maintenant le sujet d'un film qui est projeté en ce moment, Mademoiselle Marx. Il lit donc la biographie de Marx et la biographie de Eleanor Marx, écrite par Yvonne Capp, une auteure britannique, une autrice britannique. Voilà ce qu'il nous dit sur toutes ces lectures. Karl et Jenny Marx étaient arrivés à Londres après avoir été expulsés, un pays après l'autre, de tout le continent européen. Ils vivaient dans le quartier misérable de Soho, et tous les révolutionnaires d'Europe, quand ils débarquaient à Londres, campaient chez eux. J'étais fascinée par cette scène imaginaire. Marx à la maison, Marx avec son épouse Jenny, avec sa fille Eleonore. Je projetais d'écrire une pièce sur Karl Marx. Je voulais montrer Marx comme peu de gens le connaissaient, en père de famille, luttant pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Marx défendait ses idées face aux critiques et je savais que sa femme, Jenny, était elle-même un formidable esprit et je l'imaginais défiant Marx de temps à autre. Je savais aussi que sa fille, Eleanor, était une enfant précoce et brillante et je l'imaginais se mesurer à quelques-unes des théories de son père les plus subtiles. Comme je voulais soumettre les idées de Marx à une critique anarchiste, j'ai aussi inventé une visite de Bakounine chez Marx. En fait, on ne dispose pas vraiment de la preuve d'une telle visite. Une autre chose me semblait manquer dans l'approche habituelle de Marx. On insistait toujours sur Marx le penseur, Marx le théoricien. Mais je savais que Marx avait été extraordinairement actif comme révolutionnaire, d'abord en Allemagne comme journaliste rebelle, puis avec les associations de travailleurs à Paris et la Ligue communiste à Bruxelles. Il avait également été actif en Rhénanie pendant la révolution de 1848, ce qui lui valut un procès, et l'acquittement d'ailleurs, à l'issue d'une plaidoirie dramatique. Ensuite, avec son exil à Londres, il prit une part active dans l'Association internationale des travailleurs, dans la cause irlandaise, et en 1871, il apporta son soutien à la Commune de Paris. Les écrits de ces années-là n'étaient donc pas seulement des écrits théoriques d'économie politique, mais aussi des réactions à chaud aux événements politiques, comme la Révolution de 48, la Commune de Paris, etc. C'est pourquoi je voulais mettre en scène cette autre facette de Marx, le passionné, le révolutionnaire. C'est bien le propos de Howard Zinn qu'on retrouve là dans cet extrait. Il est confronté, enfin Marx est confronté à l'actualité, et donc comme on l'a vu dans l'introduction, l'idéologie de Marx se confirme, on pourrait dire, en opposition avec l'idéologie dominante ambiante, et c'est ce qu'on retrouve dans ses actions.
J'ai écrit cette pièce à une période où l'effondrement de l'Union soviétique provoquait dans les grands médias et chez les leaders politiques une jubilation quasi universelle. Non seulement l'ennemi était mort, mais les idées du marxisme étaient discréditées. J'ai voulu montrer, au contraire, que la critique marxiste du capitalisme reste fondamentalement vraie. Les titres des journaux confirment chaque jour son analyse. Il avait vu la vitesse et le chaos sans précédent du progrès technologique et du changement social à son époque, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui. Bouleversement continuel de la production, ébranlement constant de tout le système social, agitation et insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de celles qui ont précédé. Tout ce qui est solide s'en va en fumée, c'était écrit dans le manifeste. Marx avait déjà vu clair dans ce que nous appelons globalisation. Encore une fois, le manifeste. La nécessité de trouver des débouchés toujours nouveaux pour ses produits pousse la bourgeoisie à envahir le monde entier. Il lui faut s'implanter partout, coloniser partout, avoir des connexions partout. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations, se suffisant à elles-mêmes, nous avons le commerce qui se développe dans toutes les directions et une interdépendance universelle des nations. C'est cela, les accords de libre-échange, que tente de conclure le gouvernement des États-Unis depuis les années 1990, visent à abolir toute restriction à la libre circulation des capitaux à travers le monde, offrant aux capitalistes le droit d'exploiter n'importe qui, n'importe où. Il avait déjà constaté le mouvement de fusion des grosses entreprises qui se poursuit aujourd'hui à une plus grande échelle. Il avait vu se creuser le fossé entre riches et pauvres, ce qui est vrai dans chaque pays, mais aussi de façon plus dramatique encore, entre les populations des pays riches et celles des pays pauvres.
Oui, donc Howard Zinn souligne fortement l'actualité de l'analyse marxiste. Il relie histoire et actualité. Il montre en fait comment Marx, sans arrêt, voit bien dans son époque, comme on peut le voir dans la nôtre, les analyses économiques et sociales qui se recoupent. Nous vivons dans une société que la formule de Marx, fétichisme de la marchandise, décrit parfaitement. Comme Ralph Waldo Emerson le disait, à peu près à la même période, en observant les débuts du système industriel américain, la marchandise tient les rênes de l'humanité. Et protéger la propriété industrielle est devenu plus important que protéger la vie humaine. Par exemple, bon, n'oublions pas que Zinn est américain, donc il prend ses exemples aux États-Unis, bien sûr. Par exemple, dit-il, la Cour suprême décida à la fin du XIXe siècle qu'une entreprise était une personne et en tant que telle pouvait être protégée par le 14e amendement. Et en fait, cet amendement qui avait été rédigé pour protéger les Noirs, eh bien, il est devenu un amendement de protection de l'entreprise. Donc, ceux qui liront Karl Marx Le Retour se demanderont ce qui est vrai historiquement. Eh bien, je vais essayer de vous dire ce qu'il en est. Qu'est-ce qui est historiquement vrai dans la pièce? Eh bien, Howard Zinn répond lui-même à cette question. Et puis, une fois que nous aurons lu sa réponse, nous passerons un petit peu de musique avant d'en venir aux extraits.
La plus grande part des événements de la vie de Marx et de l'histoire de cette période est fondamentalement exacte. Son mariage avec Jenny, son exil à Londres, la mort de ses trois enfants et les conflits politiques de son époque, la lutte de l'Irlande contre l'Angleterre, les révolutions de 1848 en Europe, le mouvement communiste, la Commune de Paris. La plupart des personnages dont il parle ont existé. Les membres de sa famille, son ami Engels, son rival Bakounine. Si les dialogues sont inventés, j'ai essayé d'être fidèle à la personnalité et à la pensée des personnages, même si j'ai pu prendre quelques libertés en imaginant les conflits idéologiques de Marx avec Jenny et Eleanor. En plusieurs occasions, comme dans sa description de Napoléon III, j'ai utilisé les propres mots de Marx. Je souhaite que cette pièce n'éclaire pas seulement Marx et son temps, mais également notre époque.
Stories, dreams with marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are charged with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through us singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirit is new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler, ten who toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Bread and roses, bread and roses.
Après la musique, place au théâtre. Karl Marx, Le Retour. Dans les lectures qui vont suivre, il y aura d'abord la didascalie initiale, mais ensuite c'est Marx qui parle. Donc Marx parle par la voix de Howard Zinn et nous allons lire des extraits en alternance, éventuellement sans lien entre les extraits, mais c'est toujours Marx qui parle, puisque en fait sur le théâtre, il s'agit d'un monologue mis en scène avec un certain nombre de situations différentes, mais une fois de plus, c'est toujours Marx qui parle. Donc, la didascalie initiale, lumière sur une partie de la scène, au centre, une lampe éclaire une scène vide, à l'exception d'une table et de plusieurs chaises. Entrée de Marx, vêtu d'une redingote et d'un gilet noir, d'une chemise blanche et d'une lavalière. Il est barbu, massif, les moustaches noires et les cheveux grisonnants, portant des lunettes cerclées de métal. Il trimballe un genre de sac de sport, il s'arrête, il marche d'un côté à l'autre, de la scène et, regardant le public, il semble satisfait. « Ah, il y a du monde !» Il y a du monde, merci, merci à vous tous d'être venus. Tous ces imbéciles qui clament « Marx est mort » n'ont donc pas réussi à vous dissuader. Eh bien, je suis là pour vous. Pourquoi je suis venu ? Pour laver mon nom. J'ai lu vos journaux. Ils proclament tous que mes idées sont mortes. Mais il n'y a là rien de nouveau. Des clowns l'ont répété depuis plus d'un siècle. Alors, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il était nécessaire de me déclarer mort encore Et encore, vous devez diffuser l'information. Marx est de retour. Voilà, j'ai des choses à vous dire et je vais vous raconter un certain nombre d'événements de ma vie. Nous vivions à Londres, Jenny, moi et les petites, plus deux chiens, trois chats et deux oiseaux. Autant dire plutôt à l'étroit, dans un appartement sur Dean Street, pas très loin de là où débouchaient les égouts. On s'était retrouvés à Londres parce que j'avais été expulsée du continent, expulsée de la Rhénanie, de l'endroit où j'étais née, et alors que j'y avais dirigé un journal. Pas vraiment révolutionnaire, mais j'imagine que l'action la plus révolutionnaire dans laquelle on peut s'engager, c'est dire la vérité. En Rhénanie, la police avait arrêté de pauvres gens qui ramassaient du bois de chauffage sur les propriétés des riches. Et j'avais écrit un éditorial pour protester. Alors ils ont essayé de nous censurer. J'ai écrit un autre éditorial affirmant qu'il n'y avait plus de liberté de la presse en Allemagne. Ils ont donc décidé de prouver que j'avais raison en interdisant le journal. Et c'est à partir de là que nous nous sommes radicalisés. Dans notre dernière édition du Zeitung, était barrée la première page par un énorme titre à l'encre rouge « Révolte ». Ça a beaucoup chagriné les autorités. Elles ont ordonné mon expulsion de Rhénanie. Je suis donc partie à Paris. Les exilés vont-ils jamais ailleurs? Où pouvez-vous rester assis toute la nuit dans un café à raconter des mensonges sur les révolutionnaires que vous avez été dans votre pays? À Paris, bien sûr. Si vous devez vivre en exil, soyez exilé à Paris. Jenny et moi, Paris fut notre ligne de miel. Nous y avions déniché un minuscule appartement, mais c'était le paradis. Toutefois, de la police allemande à la police parisienne, ils avaient dû se passer le mot. Il semble que la police développe une conscience internationaliste bien avant les ouvriers. J'ai donc été expulsée de Paris. Nous sommes allés en Belgique et encore une fois expulsés. Et nous sommes enfin arrivés à Londres, comme cela, à Londres où débarquent les réfugiés du monde entier. Les Britanniques sont remarquables pour leur tolérance et insupportables pour la vanité qu'ils en tirent. Suite des événements.
Pour tenter de minimiser la portée d'As Capital, de Das Kapital, mes critiques diront ce qu'ils disent toujours des auteurs radicaux. Il a dû vivre quelque expérience personnelle affreuse. D'accord, si vous voulez insister là-dessus, le chemin du retour à travers Soho alimenta la rage qu'il y a dans Das Kapital. Je vous entends dire, bon, bien sûr, voilà comment c'était à l'époque, il y a un siècle. À l'époque seulement ? En venant aujourd'hui, j'ai marché à travers les rues de votre ville, envahie d'ordures, exhalant un air fétide, devant les corps d'hommes et de femmes qui dormaient sur les trottoirs, blottis les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Et au lieu d'une rengaine fredonnée par un gosse, j'ai entendu une voix, plaintif, « Un peu de monnaie, monsieur, pour une tasse de café. » Vous appelez ça « progrès » parce que vous avez des voitures à moteur et des téléphones et des machines volantes et 1000 parfums pour sentir bon? Et les gens qui dorment dans la rue? Il attrape un journal et le consulte. Un rapport officiel, le produit national brut des États-Unis, ça pour être brut, il s'est élevé l'an dernier à 700 milliards de dollars. Très impressionnant. Mais pouvez-vous me dire où tout ça se trouve? Qui en profite? Et qui n'en profite pas ? Il lit à nouveau le journal. Moins de 500 personnes contrôlent 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux. Ces gens sont-ils plus nobles ? Travaillent-ils plus durement ? Sont-ils plus précieux pour la société qu'une mère avec 3 enfants à nourrir en hiver sans rien pour payer la note de chauffage ? N'ai-je pas dit, voilà 150 ans, que le capitalisme allait augmenter la richesse dans des proportions énormes, mais que cette richesse serait concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses.
Continuons. Dans le petit appartement de Soho, Jenny faisait réchauffer de la soupe et bouillir des pommes de terre. On avait le pain frais de notre ami le boulanger en bas de la rue. On s'asseyait autour de la table pour manger et parler des événements du jour. La lutte de libération de l'Irlande, la dernière guerre du moment, l'imbécilité des dirigeants, une opposition politique se contentant de piaulements et de glapissements, la lâcheté de la presse. Je suppose que les choses sont différentes aujourd'hui, hein ? Après le dîner, on débarrassait la table et je travaillais. Un cigare et un verre de bière à portée de main, car je travaillais jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Mes livres empilés d'un côté et les rapports parlementaires de l'autre. Jenny se tenait à l'autre bout de la table pour retranscrire. J'écrivais si mal qu'elle devait recopier chaque mot. Pouvez-vous imaginer acte plus héroïque ? Quand Das Kapital a été publié, on a fêté ça. Mais Engels a dû d'abord nous passer un peu d'argent pour qu'on puisse retirer de chez le prêteur vaisselle, nappe et serviette. Ah, Engels, un bienfaiteur, il n'y a pas d'autre mot. Quand on nous coupait l'eau ou le gaz, que la maison était dans le noir et notre morale au plus bas, Engels payait la note. Eh oui, son père avait des usines à Manchester. Alors, quelque part, ben oui, c'est le capitalisme qui nous a sauvés. Peut-être pas assez, peut-être pas assez vite, mais enfin quand même. Quand Éléonore est née, on était assez horrifiés. En fait, on avait déjà eu des enfants décédés. Et Éléonore, c'était une petite chose, mais une petite chose coriace. On pouvait s'estimer heureux que soient restées avant elle deux sœurs aînées. Elles avaient tout juste survécu, mais tout de même, Éléonore allait suivre leurs traces. Quelque chose dans l'air, oui, quelque chose faisait qu'à Londres, nous étions sans le sou, mais on pique-niquait le dimanche. On marchait une heure et demie dans la campagne, Jenny et moi et les enfants, et on avait du thé, du pain aux fruits, du fromage, de la bière. Éléonore était la plus jeune, mais elle buvait de la bière. On n'avait pas d'argent, mais les enfants avaient quand même besoin de distraction. On les a même envoyés une fois en France, sur la côte Atlantique, avec l'argent du loyer. Et une autre fois, parce que les filles aimaient beaucoup la musique, j'ai acheté un piano, avec l'argent des courses. Un père n'est pas supposé préférer l'un de ses enfants, mais Éléonore. Il m'arrivait de dire à Jenny, « Éléonore est une enfant étrange. » Et Jenny répondait, « Tu ne croyais quand même pas que les enfants de Karl Marx seraient tout à fait normaux. »
Éléonore était la plus jeune, la plus brillante. Imaginez une révolutionnaire âgée de 8 ans. C'est l'âge qu'elle avait en 1863. La Pologne s'était soulevée contre l'autorité russe. Elle a écrit à Engels à propos de ses vaillants petits compagnons de Pologne, comme elle les appelait. À 9 ans, elle a envoyé une lettre en Amérique pour expliquer au président Lincoln comment gagner la guerre contre les États confédérés. En plus, elle fumait et elle buvait du vin. Mais c'était malgré tout une enfant. Il lui arrivait d'habiller ses poupées en sirotant un verre de vin. À 10 ans, elle jouait avec moi aux échecs et ce n'était pas facile de la battre. À 15 ans, elle fit une crise contre l'observation du jour du Seigneur. Aucune activité n'était légalement permise le dimanche. Elle organisa donc à St. Martin Hall les soirées dominicales pour le peuple, fit venir des musiciens pour jouer Handel, Mozart, Beethoven. Salle comble, 2000 personnes. C'était illégal, mais personne ne fut arrêté. Retenez la leçon. Si vous voulez violer la loi, faites-le avec 2000 personnes et Mozart. J'avais l'habitude de lire à haute voix Shakespeare, Eschyle et Dante pour elle et ses sœurs, ce qu'elle adorait. Sa chambre était un musée consacré à Shakespeare. Savez-vous combien c'est déconcertant de voir votre propre fille vous trouver des faiblesses dans un raisonnement ? Elle se disputait avec moi au sujet de mes propres textes. Il y a eu une nuit terrible, cette nuit où le gouvernement britannique a pendu deux jeunes Irlandais, là-bas en plein Soho, au milieu d'une foule d'ivrognes qui applaudissaient. Ces Anglais si raffinés avec leur thé et leur pendaison publique. J'ai cru comprendre que vous ne pendez plus personne. Vous vous contentez de les gazer, de leur injecter du poison dans les veines ou d'utiliser l'électricité pour les brûler jusqu'à ce que mort s'en suive. Beaucoup plus civilisé. Oui, ils ont pendu deux jeunes Irlandais qui voulaient libérer leur pays de l'Angleterre.
Donc, Eleanor, en effet, fait et cause pour les rebelles, pour les révoltés, et Eleanor s'oppose quelquefois à son père sur le plan idéologique. Howard Zinn attribue donc aux membres de la famille de Marx des discussions sur ses ouvrages. Il nous fait partager un certain nombre de ces discussions, puisqu'il imagine que Eleanor, comme on vient le voir, ou Jenny, par ailleurs, reproche un certain nombre de choses, essentiellement dans la rédaction des livres. Par exemple, Jenny n'était pas du tout complaisante quand je me plaignais de patauger dans la boue au milieu de la rue. Elle disait « Eh bien, c'est exactement ce que je ressens quand je lis Das Kapital. » Elle fut toujours ma critique la plus sévère, impitoyable. Honnête, pourriez-vous dire. Mais y a-t-il quelque chose de plus infamant qu'un critique honnête ? Le livre lui posait problème. Enfin, l'écriture du livre. Oui, Das Kapital. Elle avait peur que j'ennuie les gens dès le début avec mon exposé sur la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Elle disait que le livre était trop long, trop détaillé. Elle utilisait le mot « pesant », vous imaginez ? Elle m'a rappelé ce qu'avait dit notre ami syndicaliste Peter Fox quand je lui avais offert le livre. « Je me sens un peu comme quelqu'un à qui on vient d'offrir un éléphant. » Et pour Jenny, le capital, Das Kapital, c'était un éléphant. J'essayais de lui expliquer qu'il s'agissait d'autre chose que dans le manifeste communiste qui était, lui, destiné au grand public, que Das Kapital, c'était une analyse. Alors, que ce soit une analyse, très bien, hurlait-elle quelquefois. Mais il faut justement hurler, comme dans le manifeste. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Voilà qui accroche le lecteur. Continuons avec un spectre hante l'Europe. Il ne faut pas quelque chose qui soit ennuyeux. Mais ne vous méprenez pas. Jenny considérait vraiment Das Kapital comme une analyse profonde. Ce livre montrait comment l'apparition du système capitaliste était un processus nécessaire à un certain stade de l'histoire qui devait entraîner une croissance colossale des forces productives et une augmentation sans précédent de la richesse dans le monde. Et ensuite, comment il ne pouvait, de par sa nature même, que répartir cette richesse de telle manière qu'elle détruise l'humanité, non seulement du prolétaire, mais aussi du capitalisme. Et comment il devait, toujours de par sa nature, finir par creuser sa propre tombe et ouvrir la voie à un système plus humain. Je lui ai rappelé que Das Kapital avait eu de bons comptes rendus dans la presse. Et elle m'a rappelé que la plupart des comptes rendus avaient été écrits par Engels. J'aurais aimé que vous puissiez connaître Jenny. Ce qu'elle a fait pour moi est inestimable. En plus, elle a accepté le fait que je ne puisse jamais avoir tout simplement un travail comme les autres. J'ai bien essayé une fois. J'ai adressé une lettre de candidature au chemin de fer pour un emploi de bureau. Ils m'ont répondu comme suit. « Docteur Marx, nous sommes honorés par votre demande d'emploi dans nos services. Nous n'avons jamais eu de docteur en philosophie parmi nos employés de bureau. Mais ce poste nécessitant une écriture lisible, nous sommes au regret de devoir décliner votre offre. » Eh oui, on peut bien écrire, mais mal écrire. Reprenons plus loin. Jenny voulait que Marx simplifie. « Tout ce que tu as à dire, c'est « Votre employeur vous donne en salaire le strict minimum, juste assez pour vous permettre de survivre et continuer à travailler. Mais il gagne encore plus d'argent, il gagne, lui, sur votre travail, bien plus que ce qu'il vous paie. Et ainsi devient-il de plus en plus riche pendant que vous restez pauvre. C'est ma théorie de la plus-value. Pas plus tard que la semaine dernière, je lisais le rapport du département américain du travail. Eh bien, tout y est. Vos travailleurs produisent de plus en plus de biens et sont de moins en moins bien payés. Résultat, exactement ce que j'avais prédit. 1% des Américains les plus riches possèdent désormais 40% des richesses du pays. Et ça se passe dans le pays qui fournit le plus grand modèle du monde capitaliste. Le pays qui non seulement a détroussé son propre peuple, mais qui a pompé la richesse du reste du globe. Génie essayait toujours de simplifier des idées qui étaient par nature complexes. Elle m'accusait d'être d'abord un érudit et ensuite seulement un révolutionnaire. Elle disait « Oublie tes lecteurs intellectuels, adresse-toi aux ouvriers ».
Elle m'encouragea à cesser de tergiverser et à m'impliquer dans la cause des travailleurs londoniens. Elle m'accompagna quand je fus invitée à intervenir pour la première réunion de l'Association internationale des travailleurs. C'était à l'automne 1864. J'ai dit « Les travailleurs de tous les pays doivent s'unir contre les politiques étrangères qui sont criminelles, qui jouent avec les préjugés nationaux, qui dilapident dans les guerres le sang des peuples et les richesses du monde. Nous devons nous associer sans souci des frontières nationales pour faire valoir la simple loi de la morale et de la justice dans les affaires internationales. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous !» Jenny adorait ça. Elle s'occupait de la maison, avec l'eau coupée, avec le gaz coupé. Mais elle ne se lassait jamais de la question de l'émancipation des femmes. Elle disait que la vitalité des femmes avait souffert du fait qu'elles soient cantonnées à la maison, à raccommoder les chaussettes et à cuisiner. Elle refusait donc de rester à la maison. Elle soutenait de tout cœur la lutte de l'Irlande contre l'Angleterre. Lorsque la reine Victoria déclara « Ces Irlandais sont vraiment un peuple abominable, qui n'a rien en commun avec les autres nations civilisées », Jenny écrivit aux journaux de Londres « L'Angleterre pend les rebelles irlandais qui ne réclament rien d'autre que la liberté. L'Angleterre est-elle une nation civilisée ?»
Oui, ça c'est vraiment les problèmes qui se posent à l'époque de Marx et qui montrent que Marx comme Jenny sont bien totalement impliqués dans les luttes de l'époque. Mais Howard Zinn fait aussi, et tout le temps dans sa pièce, le rapprochement et le lien avec l'actualité. C'est ainsi qu'il dit, et qu'il fait dire à Marx, « Ici, en Amérique, vos prisons sont surpeuplées. Qui les remplit ? Les pauvres. Certains ont commis des crimes violents, de terribles crimes. La plupart sont des cambrioleurs, des voleurs, des bandits, des revendeurs. » Ils croient tous à la libre entreprise. Ils font ce que font les capitalistes, mais à plus petite échelle. Savez-vous ce qu'Engels et moi avons écrit sur les prisons? Plutôt que de punir les individus pour leurs crimes, on devrait éliminer les conditions sociales qui engendrent le crime et fournir à chaque individu tout ce dont il a besoin dans une société pour développer sa propre vie. Alors, à ce point-là, on pourrait terminer la pièce, mais il faudrait un petit peu plus de temps. L'essentiel a été dit sur la relation entre Marx et son époque, la relation entre le marxisme et notre époque. Évidemment, la thèse de Howard Zinn, c'est l'actualité de Marx et l'actualité sans arrêt renouvelée de Marx. On en est bien tous persuadés et on va quand même passer un petit peu sur la fin de la pièce dans laquelle il y a encore un certain nombre de dialogues avec aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les dialogues imaginaires avec Bakounine. C'est un petit peu difficile à lire de cette façon à la radio, peut-être que nous ne sommes pas d'assez bons comédiens. Mais enfin, on va vous laisser penser à Marx et au marxisme. Et on va vous dire que pour les semaines prochaines, nous n'avons pas encore bien défini notre programme. Nous verrons quelles surprises vous proposer. De temps en temps, quelques rediffusions parce que l'été va venir et nous ne serons pas toujours là. Mais enfin, dans tous les cas, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.